J'aimerais partager avec vous la suite du livre de l'Exode, que j'ai déjà commencé il y a déjà 2 mois. Et d'abord, je voudrais vous remettre dans le contexte en lisant un extrait du discours d'Étienne, que je vous lis directement, donc c'est acte 7, verset 20. « À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. » Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Et le texte de base, c'est Exode 2, verset 11. Exode 2, verset 11 à 22. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Et dit certainement, la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian et il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Et nous continuons une petite lecture dans le livre des Actes, dans le discours d'Étienne, acte 7, versets 23 à 25. Acte 7, 23 à 25. Moïse avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il invita un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Et un dernier passage, dans la lettre aux Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 25. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Jusque-là dans la lecture. Père éternel, encore une fois, nous voulons humblement nous approcher de toi avec ce texte qui ont traversé les siècles. Merci, parce que nous pouvons encore lire, encore étudier librement dans notre pays. Seigneur, encore une fois, nous voulons écouter ta voix, écouter ton message, ce qui a été transporté pendant les siècles. Seigneur, merci, parce que tu es le Tout-Puissant et tu veux parler, encore aujourd'hui. Mets ta main sur nous, mets ta main sur moi, mais quand on revient, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons dans le récit que nous avons lu les premiers pas de la vie de Moïse, comme nous avons déjà vu une partie. Nous avons vu que pour arriver à le faire naître, sa maman et les sages-femmes ont désobéi à l'ordre du Pharaon de faire mourir les petits garçons à cause de l'extension du peuple hébreu dans le pays d'Égypte, qui devenait un danger. Il fallait jeter les nourrissons mâles dans le fleuve. Mais comme vous avez vu, comme nous avons vu, Moïse échappa. par la fabrication d'une petite arche qui lui permit d'être repéré par la fille du pharaon, en personne qui l'adopta et lui donna son nom. Exode 2:10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon et fut pour elle comme un fils. Elle, la fille du pharaon, donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Nous pouvons comprendre que Moïse signifie sauver des eaux, comme tout nom hébreu a une signification bien spécifique. Le hic, c'est que la fille du pharaon n'est pas hébreu. Hébreu, oui. Elle est égyptienne. Et elle a adopté quand même ce fils. Et effectivement, la base quand même du nom signifie en égyptien « fils de ». Le nom primitif, oui, probablement, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, « messou », dont nous retrouvons la racine « mes », dans plusieurs noms de pharaons comme Ramsès, bon, les lettres ne sont pas dans le même ordre, mais c'est la même chose, qui veut dire « fils de Ra » ou « Toutmès », « fils de Thoth ». Donc, la racine égyptienne de Moïse prend son sens comme issu de, né de, fils du Nil, fils des eaux, issu des eaux. Il y a une concordance dans tout ça, même en hébreu et en égyptien. Et on rejoint le sens hébraïque qui veut dire tirer de. Moïse veut dire tirer de. Et plus dans l'action de celui qui tire. Pas maintenant, il a été tiré des eaux, mais plus tard, c'est un peu prophétique, son nom. Il tirera dehors le peuple hors du pays. Mais comment comprendre que ce nom n'ait jamais changé au cours de toute l'histoire de l'Ancien Testament ? Nous avons pourtant quand même d'autres exemples. Abraham qui devient Abraham, Jacob qui devient Israël, et dans le Nouveau Testament, Saul qui devient Paul. Moïse, il ne change pas de nom. Ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est quand même lui, l'auteur du Pentateuque. C'est quand même lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Il n'a certainement pas voulu donner une consonance du pays qu'il avait un peu détruit son peuple et rendu en esclavage. Je pense qu'il s'est mis directement son nom, Moïse. Comme ça, pas de confusion. Mais il est quand même bien égyptien d'adoption, fils de la fille du pharaon, faisant partie de la famille royale. Mais ses origines hébraïques lui collent à la peau. C'est le cas de lire. Et quand il voit un Égyptien frapper un de ses frères, qui sait très bien qui il est, d'où il vient, comme nous dit le verset 11 en Exode 2, il voit rouge. Et le sang hébreu ne fait qu'un tour, et il tue l'Égyptien. Il le tue. Il commet l'irréparable. Déjà que les sages-femmes pour le mettre au monde, avait menti. Elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Sa mère également avait désobéi. Moïse devient un assassin. Quel début de vie. Il devient un assassin. Nous sommes quand même bien loin du psaume 90 que nous avons lu. Souvenez-vous, le premier verset, prière de Moïse, homme de Dieu. Homme de Dieu. Dans certaines versions de la Bible, cette phrase est présentée comme un titre. Dans l'original hébreu, ce n'est pas un titre. Cette inscription fait bien partie du premier verset. Prière de Moïse, homme de Dieu. Et dans certaines versions encore, il précise plus, prière de Moïse, l'homme de Dieu. Comme s'il n'en avait qu'un. L'homme de Dieu, c'est lui. C'est l'homme de Dieu. Il est évident que, quand nous connaissons toute l'histoire de Moïse, il fut quand même un homme de Dieu exceptionnel. Mais à ce moment précis de l'homicide, il n'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. L'image que nous avons quand on évoque Moïse, c'est l'homme qui ouvre la mer avec son bâton et qui fait traverser le peuple à sec. C'est l'homme qui monte sur la montagne et qui parle face à face avec Dieu. Personne d'autre l'a fait, lui seul. C'est l'homme que nous connaissons, un peu côté impulsif, qui casse quand même les tables de la loi quand il descend et qui voit que le peuple a péché, qui détruit le veau d'or. C'est lui, Moïse, le rebelle quand même, qui frappe le rocher 2 fois, alors que Dieu a dit « parle au rocher ». Moïse est excessif. Moïse est impulsif. Mais quant à la justice et la loi divine, il est excédé quand il constate que l'honneur de Dieu est bafoué. Mais au moment précis où il lève la main pour commettre ce meurtre, quelles sont ses motivations? Il tue quand même. Il se rend vers ses frères et constate que ceux qui l'ont adopté sont des exploiteurs de main-d'œuvre bon marché et qu'ils n'hésitent pas à utiliser la force pour arriver à leur fin. Mais lui, il arrive en vengeur. Moïse, oh! Et comme nous dit le livre des Actes, je ne sais pas si vous avez regardé la subtilité, Actes 7, verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Pourquoi Étienne a dit ça? Ça vaut peut-être le coup de creuser. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu lui accordait la délivrance par sa main. Moïse, super-héros! J'arrive, oh, tout le monde m'accueille en vainqueur. Moïse, le sauveur du peuple oppressé. Oui, mais pas maintenant. Beaucoup plus tard, plus tard. Pourtant, il avait toute la sagesse de l'instruction égyptienne. Et le texte des Actes encore, témoignage d'Étienne, nous dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Puissant en parole et en œuvre. Il aurait pu, en tant que fils de la fille du Pharaon, faire valoir son titre et user de son influence. Il était quand même quelqu'un d'influent. C'était le fils de la fille du Pharaon. Que du contraire. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Personne. Wow ! Je tue. Pas de problème, il n'y a personne. Personne ne m'a vu. Je peux tuer. Ne le blâmons pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? On n'aurait peut-être pas été jusqu'à tuer. Je ne pense pas. Moi, j'espère. Mais, personnellement, j'aurais peut-être eu du mal à intervenir. Deux personnes qui se battent. Et je me souviens être dans un magasin et voir une scène d'un gars qui poursuit sa femme avec une batte de baseball et qui casse le bazar dans le magasin. Et moi, je n'ai rien fait. Prostré. J'ai rien fait. Heureusement, il y avait des plus costauds que moi et qui ont été intervenir, et ça s'est apaisé. Parfois, devant l'injustice, le silence est parfois davantage tueur que toute autre action. Moïse sait qu'il va faire quelque chose qui ne va pas plaire, vu qu'il regarde à gauche, à droite. Il regarde de côté, voyant personne, il frappe dans sa tête. Une fois que c'est fait, c'est une histoire réglée. Le mot, je l'ai enterré dans le sable, c'est fini. Le lendemain, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Le cadavre est sorti du sable. Il est ressuscité. Vous remarquerez quand même que les reproches ne viennent que de ses propres frères. Ce n'est pas les Égyptiens qui l'accusent, c'est ses propres frères. Ah, avec de bonnes intentions. Hein. Il a tué, bon, pour essayer de délivrer ses frères, par bonnes intentions. Plusieurs dans la Bible avaient de bonnes intentions ou de bonnes excuses pour enfuir leurs péchés. Le premier, Adam. C'est pas moi, c'est la femme qui l'a fait. C'est pas moi. Moi, je veux rien avoir. Je l'enterre. David, qui menait une vie normale, avec la femme d'Uri, qui venait de tuer jusqu'au jour où le prophète lui dit, mais tu as péché. Jusque-là, pas de problème. Le prophète Élie, qui ne sanctionne pas ses fils pervers jusqu'au moment où Dieu parle à Samuel. Pas de problème, mes fils, vous faites pas bien. On enterre. Que dire de Saul de Tarse qui persécute l'église de Dieu au nom de la Torah? On enterre. Parfois, nos bonnes intentions, notre impulsivité n'est pas parfois source de notre propre justice ou de nos règlements de compte. Combien souvent, sous le couvert de l'évangile, des êtres humains n'ont-ils pas été frappés ou tués par des propos excessifs? Tu dois faire ça. Tu ne peux pas. Peut-être que par nos paroles sont retenues ou nos actes que nous pensions à la gloire de Dieu. N'avons-nous pas détruit des vies qui auraient pu être sorties des griffes de l'ennemi? J'écris. Pardon, Seigneur, si c'est le cas. Je me suis arrêté. Je dis, ma phrase est trop forte. Je me dis, mais c'est peut-être le cas. Seigneur, pardon. Pardon si c'est le cas, si j'ai tué des gens, si j'ai assassiné par mes paroles. Peut-être sans le savoir, ou peut-être par bonne intention. Moïse commet l'irréparable. Il tue. Alors il doit fuir. Mais pourquoi il doit fuir? Il est quand même égyptien d'adoption. Il est de la famille royale. Et comme tout le monde au palais de Pharaon, il a droit de vie de mort sur quiconque, puisque c'est le Pharaon qui fait les lois. C'est lui qui décide tout. Et c'est lui qui fait appliquer les lois. En quelque sorte, il est sous le couvert de ce que l'on appelle aujourd'hui l'immunité parlementaire. Il ne peut pas me toucher. Je peux faire ce que je veux. Il est, normalement, intouchable. Mais la gazette du village a parlé. Pourquoi, comment? Les faits sont exposés au grand jour. On sait. Ah. Jésus avait raison, hein, quand il disait au verset, en Marc 82, ce verset qui est repris sur la page de Bléni, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Tout est découvert. Oh, certainement que lorsque Moïse a écrit le psaume 90, il s'en souviendra. Voilà ce qu'il écrit au verset 8. « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » La nouvelle Bible seconde dira « Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. » Et Darby, « Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos fautes cachées. » Ce qu'on a dissimulé, ce qu'on a caché, est mis à nu devant Dieu. Moïse, malgré son titre royal, doit fuir. L'explication est peut-être dans la date de l'événement. Moïse a 40 ans et sa mère adoptive est probablement morte. Et le père de celle-ci, le pharaon de l'époque, également. La vie à cette époque était courte à la cour du pharaon. Et le nouveau dirigeant ne veut peut-être pas voir d'un très bon œil cet hébreu dans la force de l'âge, au sein de ces gens de la royauté égyptienne, et n'a qu'une chose en tête, c'est le liquider, de chercher un moyen d'éliminer. Ah, ça y est, je l'ai. Il a tué un Égyptien, on va liquider, on va s'en débarrasser. Alors Moïse doit fuir, il n'a pas le choix. Quand même, quelle descente vertigineuse pour avoir voulu défendre l'un de ses frères opprimés. Avec une bonne intention, quand même. Rien de nouveau sous le soleil. Encore aujourd'hui, si vous vous mettez en sauveur de justice et parfois en lanceur d'alerte, vous êtes vite rejeté. Parfois même par vos frères et sœurs. On ne peut plus prendre parti pour une noble cause sans qu'une levée de bouclier soit automatiquement présentée comme une atteinte à la liberté. Vous avez vu dernièrement, je suppose, que les États-Unis veulent condamner l'avortement. C'est la révolution, hein ? Une atteinte aux droits des femmes. Comme s'il n'y avait pas d'autres moyens avant. Il faut tuer. Il faut tuer. Tout est permis. Ce qui est mauvais est déclaré bon. Et ce qui est bon ne l'est plus pour cause de discrimination ou d'autres excuses. Ou de bonnes intentions. Il est évident que dans le cas de Moïse, il n'est pas en question aujourd'hui de faire justice soi-même, mais même si la justice des hommes paraît injuste. Moïse doit donc fuir, tel qu'il est. Tel qu'il est. Il est parti en Égyptien, puisque les filles de Madian témoignent que c'est un Égyptien qui les a secourus. Ah ! Il est quand même intervenu. Il a encore son impulsivité de sauveur. Cette fois-ci, c'était un bon escient. mais c'est un Égyptien. Il sera en exil pendant 40 ans. 40 ans. Il donnera une descendance, mais sera toujours amer de naître dans un pays étranger. Il est hébreu de naissance, mais ne réside pas dans le pays promis, du moins pas encore, et ne le sera jamais. Mais là, il ne le sait toujours pas. Il est égyptien d'adoption, mais a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Comme le confirme l'épître aux Hébreux que nous avons lu, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il est isolé, tout seul, en pays étranger. Dieu l'a-t-il abandonné ? Rappelons-nous que le psaume 90, ce que dit le psaume 90, l'homme de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu. À ce moment-là, on ne sait pas où il va. Hein. Il a pourtant fait tout pour y arriver, quand même, pour être l'homme de Dieu. La foi, le refus du péché, il se souvient de ses origines, il défend ses frères, mais règle ses comptes sous impulsivité. Il est un assassin, bien loin d'un homme de Dieu. Nous pourrions peut-être lui accorder des circonstances atténuantes. Tant qu'à faire. Il agit pour le bien du peuple, se croyant le sauveur, et pendant que ses frères et sœurs allaient le porter en triomphe. Peut-être. Dans d'autres cas, qui auraient pu être excusés. Jonas, par exemple, que Daniel nous a parlé la semaine dernière, Jonas, qui fuit devant Dieu. Son excuse aurait pu être que les Ninivites étaient des païens et que lui était prophète de Dieu, prophète hébreu seulement, et qu'il ne parle pas aux rebelles et aux païens. Mais quand Dieu a dit, il a dit, il faut faire. Ou encore Saul, qui tue les rebelles à la loi divine, peut lui donner des circonstances atténuantes, hein. Peut-être. Ou encore d'actualité, les armées russes bénies par l'Église du pays parce qu'ils se présentent en sauveur des russophones d'Ukraine. Souvenons aussi qu'à une certaine époque, les canons d'Hitler ont été bénis aussi. Hein. Moïse, à cette étape de sa vie, n'est pas en conformité avec le plan de Dieu, tout en croyant être dans le bon. Bonnes intentions, bonnes excuses. Mais il n'est pas dans le bon. Dieu n'a pas d'autre choix que de le briser, de l'isoler, de le former. Pas juste un séminaire d'un week-end. Hein. On va se retirer dans un château, faire un pont. Et c'est bon. Non. 40 ans. 40 ans à être formé. 40 ans de désert. Et puis qu'aux 40 ans après, dans le désert encore. 40 ans de désert. Dieu prend son temps pour arriver à ses fins. Même si nous avons l'impression qu'une interférence, tel un meurtre irréparable, a pu perturber son plan, sa stratégie pour libérer le peuple de Dieu. Non. Dieu prend son temps pour former. Dieu fait tout en son temps. Il forme ses serviteurs pour qu'ils soient totalement dépendants de lui. Moïse n'avait pas le choix. Il fallait dépendre de Dieu. Et si Moïse a été un sujet de mensonge et de désobéissance à sa naissance et est devenu un assassin, en connaissance de cause, à gauche, à droite, le tue, c'est que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il connaisse le péché avant de devenir un homme de justice. Sous la main du puissant juge qui fait grâce à ceux qui le reconnaissent comme ses enfants. Dieu fait grâce. La foi de Moïse a été affinée par les épreuves qu'il a dû subir pour être à l'image que l'Éternel voulait qu'il soit. Oh, il est resté impulsif, mais il est devenu l'homme de Dieu. L'assassin est devenu, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu. Qui a écrit le psaume 90 et toute une partie de l'histoire du peuple hébreu. Dieu a formé Moïse et il est devenu l'homme de Dieu. Qu'à lui revienne toute la gloire, qu'à notre Seigneur revienne toute cette gloire de son travail qu'il a fait pour nous libérer et pour libérer son peuple. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Tout-Puissant. Il est clair parfois que nous avons dû à comprendre tes épreuves, même avec nos bonnes intentions. Tu dois nous former. Je me souviens, Seigneur, que un jour un pasteur me disait « Tu seras formé, tu passeras par le désert ». J'ai quand même répondu « Pas 40 ans ». Mais Seigneur, tu prends ton temps, parce que tu veux que nous soyons à ton image, pour ta gloire uniquement. Amen.